ce temps de louange, nous rappeler que Jésus-Christ est vivant, mais je crois qu'on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle, nous le savons. Et c'est quand même surprenant ce que l'on entend, Jésus est vivant, quand nous entendons d'un autre côté, vanité des vanités, tout est vanité. Il y a des choses qui passent, des choses qui n'ont pas de valeur, auxquelles pourtant toute l'humanité s'attache, toute l'humanité s'accroche. Et il y a les valeurs éternelles qui durent éternellement. Et c'est de cela que l'on va parler encore ce matin. Gérald, si tu veux venir. Ah, il est en train de se faire accrocher par son épouse, mais ça va. Oui, cette dualité qu'il y a entre les choses éphémères, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, et ces choses éternelles qui sont là, et la plupart du temps que le monde ne veut pas voir. Alors je vais prier pour toi, et surtout pour nous, Gérald, pour que nous puissions recevoir cette parole de Dieu, et qu'elle devienne agissante dans nos vies. Seigneur, moi j'aimerais te remercier pour Gérald qui a passé du temps à réfléchir, à méditer, qui s'est placé devant toi en étudiant ces textes, Seigneur, qui ne sont pas toujours faciles. Je te remercie pour cela et en ton nom je veux le bénir, lui et sa famille. Te demandant aussi de garder sa famille parce qu'il s'expose en prêchant l'Évangile. Et Seigneur, je te prie pour que nos cœurs s'ouvrent et que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle puisse avoir une efficacité dans nos vies, que ne soit pas simplement un savoir supplémentaire, mais qu'elle devienne substance de notre vie. Je demande dans le nom de Jésus. Amen.
Bien voilà, chapitre 3 de l'Ecclésiaste. Vous vous souvenez, il y a deux semaines, c'est René Monod qui nous a parlé, qui a développé les chapitres 1 et 2. Je ne vais pas y revenir. Chapitre 3 est assez long, assez touffu. Je pense que nous aurons le temps d'en faire le tour. Je vous rappelle qu'Ecclésiaste nous est présenté comme un maître de la sagesse. Mais il faut se rappeler une chose, en Israël, l'ultime source de la sagesse ne se trouve pas dans la perception du sage, mais elle se trouve dans l'éclairage et l'intelligence que Dieu donne de la création. Et c'est cela que nous allons retrouver dans ce chapitre 3. Ecclésiaste est un observateur avisé de ce qui se passe sous le soleil. Il réfléchit. Il en tire des conclusions, et vous verrez que ces conclusions peuvent nous atteindre aujourd'hui. Encore une remarque avant d'entrer dans le texte. Quand Ecclésiaste fait référence à Dieu, il dit « Elohim », le Dieu créateur, et non Yahvé, l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Et cela a de l'importance. Et c'est l'angle sur lequel nous aborderons d'abord ce texte. Ecclésiaste observe, réfléchit, tire des conclusions, mais n'apporte aucune réponse. C'est pourquoi nous le trouvons souvent insupportable, fataliste, pessimiste, voire cynique. Et je vous propose d'écouter ce texte d'Ecclésiaste 3. J'ai demandé à mon épouse de nous le lire. Monique, si tu veux bien.
Ecclésiaste 3, versets 1 à 22, dans la version Tob. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour saper et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel profit à l'artisan du travail qu'il fait? Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu va rechercher ce qui a disparu. J'ai encore vu sous le soleil qu'au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu'au siège de la justice, là était la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour chaque chose et pour chaque action. Je me suis dit en moi-même, au sujet des fils d'Adam, que Dieu veut les éprouver. Alors on verra qu'en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête. C'est un sort identique. Telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là. Ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va vers un lieu unique. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des fils d'Adam qui monte, lui, vers le haut, tandis que le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre? Je vois qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part. Qui, en effet, l'emmènera voir ce qui sera après lui?
Ouf! Eh bien, on va suivre ce texte pas à pas, si vous le voulez bien. Et Ecclésiaste commence par ses observations sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Il nous concerne tous. Pas moyen de s'en extraire, impossible de se l'approprier. C'est notre horizon. On sait le mesurer avec un chronomètre. On sait comment aller à un rendez-vous. On sait comment arriver à l'heure au culte. Et pourtant, qu'est-ce que le temps? Je n'ai pas de réponse à cette question, et longtemps avons-nous cette question à préoccuper saint Augustin. Et je vous propose d'entendre ce qu'il en dit. Hop là. Qu'est-ce en effet que le temps? Qui serait capable de l'expliquer facilement et brièvement? Qui peut le concevoir, même en pensée, assez nettement pour exprimer par des mots l'idée qu'il s'en fait? Est-il cependant une notion plus familière et plus connue dont nous usions en parlant? Quand nous en parlons, nous comprenons sans doute ce que nous en disons. Nous comprenons aussi si nous entendons un autre en parler. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a une vision chrétienne ou judéo-chrétienne du temps ? Certainement. Dieu est un Dieu créateur. La création a donc un commencement et il y a une fin annoncée. Nous sommes donc inscrits dans un temps linéaire, dans une histoire. Encore un mot d'explication avant d'entrer dans le texte lui-même. L'hébreu est plus riche que le français, puisqu'il utilise deux termes différents que nous avons souvent traduits par « temps ». Dans les versions plus récentes, c'est souvent traduit par « moment » et « temps », c'est ce qui se trouve dans la Tob. Il y a un moment pour tout, et ce moment ou ce temps, c'est un temps fixé, mais ça a l'idée d'une durée, d'une époque, d'une saison. Et il y a un temps pour chaque chose sur le ciel, et là, le mot « temps » a plutôt la signification de l'heure opportune, du bon moment, du temps précis à discerner. Et c'est intéressant parce que dans l'énumération des 8 versets qui suivent, c'est ce temps-là qui est utilisé. Il y a donc un temps opportun pour chaque chose. Le premier verset exprime la synthèse des observations de l'Ecclésiaste. Durant le temps qui nous est imparti, chaque chose trouve un temps opportun pour être réalisée. Et les 7 versets suivants sont comme une illustration de cette thèse. C'est une énumération de 28 termes descriptifs des actes de la vie humaine. 14 actions positives, 14 actions négatives. C'est une liste disparate, non chronologique, non ordonnée. Mais c'est intéressant de voir qu'elle commence par une action positive, le temps d'enfanter. Elle se termine par une autre action positive, un temps pour la paix. Il y aurait déjà beaucoup à dire là-dessus. Cette énumération prend en compte de multiples expressions de la vie humaine. A-t-on là l'expression d'une totalité, la vie, la mort et tout ce qu'il y a entre deux ? À première vue, on dirait non, parce que la liste ne semble pas exhaustive des activités humaines. Et pourtant, certains commentateurs constatent que la liste comprend 14 actions opposées, ou plutôt 7 fois 2 fois 2 actions. 7 fois 2 fois 2. Et ils y voient une totalité. Jacques Ellul, s'appuyant sur le sens des mots, la comprend comme l'ensemble des activités possibles, toute époque confondue. Et je crois qu'on peut voir dans cette énumération la totalité de l'existence humaine, la totalité de la vie. En examinant cette énumération, on pourrait penser à première vue qu'il s'agit d'opposition. L'un des termes exprime une action positive, enfanter, planter, guérir. L'autre, une action négative, mourir, arracher, tuer. Il n'y a pas de logique dans ces balancements. Certaines actions sont dramatiques, d'autres joyeuses, toutes sont banales. Ainsi, plutôt que d'opposition, il vaudrait mieux parler d'alternance. Il y a comme une fatalité du temps vécu dans une alternance d'actions positives et négatives. Est-ce une liste d'options à choix ? Oui et non. Souvent, il n'y a rien à choisir. Les actions surviennent sans qu'on n'y puisse rien. Naître, mourir et d'autres. D'autres fois, il y a une volonté de faire. Coudre, déchirer, amasser. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas chez l'Ecclésiaste d'échelle de valeur. Tout semble au même niveau. Cette énumération est une description de la vie qui met en évidence son caractère ambigu. Et au premier abord, elle semble souligner l'absurdité de l'existence. Cette alternance des actions qui défilent donne l'impression de l'inutilité de l'effort humain. pourquoi amasser des pierres si c'est pour les jeter? Pourquoi planter si c'est pour arracher? C'est comme si on n'avait rien fait. Le temps de l'homme ne serait-il pas autre chose que ce balancement d'une action à l'autre? Le verset 9 vient mettre comme un point d'orgue à ce pessimisme. Quel profit a l'artisan du travail qu'il a fait? Ce mot profit, on le trouve uniquement dans l'Ecclésiaste. C'est une notion comptable, ça dit le surplus, ça dit ce qu'il reste à la fin. Quel est le surplus qui restera à l'artisan, celui qui a réalisé toutes les actions précédentes, toutes les actions de sa vie dans leur alternance, que lui restera-t-il de son travail, de tout ce qu'il a accompli? Et venant clore une liste dont le bilan, vous êtes d'accord, est nul, cette question paraît ironique, et la réponse attendue est aucun profit. C'est ce que l'Ecclésiaste a déjà dit au chapitre 2, au verset 11. Eh bien, tout cela est vanité et poursuite de vent, on n'en a aucun profit sous le soleil. Pour l'Ecclésiaste, Dieu n'est pas seulement créateur, il a donné aux hommes de quoi s'occuper, de quoi remplir leur temps. Dans le mot hébreu « occupation », il y a une forme négative. Il y a un sens de souci, de préoccupation. On n'est pas dans la facilité. Et je n'ai pu m'empêcher de penser à la Genèse, à ce que Dieu a dit à Adam après sa désobéissance. « C'est dans la peine que tu te nourriras tous les jours de ta vie. À la sueur de ton visage, tu mangeras. » Rien, en fait, ne sera jamais facile pour l'être humain sur cette terre. Et c'est sûr que la difficulté crée les soucis, crée les préoccupations. Mais, hormis la culture du sol, quelles sont les occupations que Dieu a données à l'homme? Eh bien, je pense que c'est toute la liste précédente que nous avons regardée. Et alors, vous êtes bien d'accord qu'il y a là une question, un problème un peu difficile. Que Dieu ait donné des occupations comme occupation les actions positives, je pense que ça nous va très bien. Mais les actions négatives. Et le début du verset 11 ajoute à notre désarroi. Dieu a fait toute chose belle en son temps. Dans la création bonne de Dieu, il y a comme un grain de sable qui s'est introduit par la désobéissance de l'homme. Il y a cette parole de Dieu qui impose à l'homme des occupations difficiles. Il y a un dérèglement de la nature qui n'est pas sans conséquence. Et dans sa rupture avec Dieu, tout autour de l'homme est devenu obstacle, même son frère. Le mal est entré en jeu, faisant place à toutes les dérives. Mais Dieu n'a pas repris le temps donné à l'homme, il l'a borné. Et dans ce sens, le temps et tout ce qu'il contient est don de Dieu. Toute chose belle en son temps, tout, le positif comme le négatif, va dans le bon sens parce que Dieu ne s'est pas retiré. Il continue à être actif derrière les faits et gestes humains. Ces temps opportuns qui nous sont donnés, positifs, négatifs, Dieu les garde sous contrôle, il les borne, et il les transcende de sa présence. Le sens du temps est donné par Dieu. Avec la deuxième partie du verset 11, je crois qu'on est au cœur du message de l'Ecclésiaste dans ce chapitre 3. À leur cœur, ils donnent même le sens de la durée. Sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Le sens de la durée, d'autres traductions disent le sens de l'éternité. Encore faut-il être d'accord sur le sens du mot. C'est difficile de définir la notion d'éternité. Tant l'éternité comme l'infini d'ailleurs est à l'opposé de nos existences temporelles et fragiles. On pourrait se contenter du dictionnaire, durer sans commencement ni fin. Peut-on se contenter de cette définition en tant que croyant? Je ne le pense pas. On ne peut pas se servir du temps de l'homme pour comprendre l'éternité. Dieu est extérieur au temps. D'une certaine manière, par rapport au temps qui s'écoule, Dieu présente une forme de permanence, une forme d'immobilité, pas d'inactivité. Alors je dirais que l'éternité, c'est le mode d'existence de Dieu. Cela n'a rien à voir avec un temps, notre temps qui serait sans durée, sans commencement ni fin. L'éternité prend sens à cause de l'existence de Dieu et c'est bien aussi quelque chose sur quoi notre foi s'appuie. Et puis on pourrait dire que dans ce sens de l'éternité mis au cœur de l'homme, il y a aussi une idée de vérité et de justice. Et alors l'Ecclésiaste nous dit, voilà encore un don de Dieu. Mais c'est encore un don ambivalent. D'une part, il ouvre l'homme sur un au-delà dans lequel le temps et son alternance d'actions contradictoires n'a plus cours. Mais d'autre part, l'intuition de ce hors du temps tourmente l'être humain. L'être humain est tourmenté parce qu'il faut articuler le temps de l'homme dans son idée de provisoire, le côté provisoire de notre vie, et le temps de Dieu, l'éternité. Et puis, le questionnement continue, parce que Dieu l'a voulu ainsi, l'humain n'arrive pas à saisir l'ensemble de l'œuvre que Dieu a faite, ce que Dieu fait du début jusqu'à la fin. Une bonne partie de l'œuvre de Dieu n'entre pas dans le champ d'investigation de l'homme. Et pour évacuer cette présence de Dieu en lui, l'homme essaye par tous les moyens d'y échapper. Il essaye d'échapper à la mort. Il essaye de trouver des réponses dans les sciences. Il s'abrutit éventuellement dans toutes sortes d'addictions. En fait, ne pas reconnaître ce sens de l'éternité, c'est d'une certaine manière être en rébellion contre Dieu. Et je crois que dans ce verset, il y a une vérité fondamentale qui transparaît. Puisque l'homme ne peut pas accéder par lui-même à la connaissance de Dieu, il faut que Dieu se révèle lui-même. Et puis, il y a cette conclusion de l'Ecclésiaste un peu fataliste. Finalement, si l'on n'y comprend rien, réjouissons-nous, donnons-nous du bon temps durant notre vie, mangeons, buvons, goûtons au positif de notre travail. Et l'Ecclésiaste de dire, cela fait partie des temps donnés par Dieu. Est-ce la porte ouverte à toutes les jouissances, à toutes les satisfactions, à tous les excès? Je vous laisse répondre. Je sais que tout ce que fait Dieu durera toujours. Ecclésiaste sait. Il a observé la vie des hommes dans son côté absurde, il a réfléchi au sens à lui donner. Il a vu la nature éphémère et imparfaite des actions des hommes, mais en face, il sait qu'il y a l'action permanente, parfaite de Dieu. Cette action qui devrait susciter crainte, c'est-à-dire respect, mais qui demande évidemment de s'approcher de Dieu avec humilité. Et puis il nous dit ce qui a déjà été, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Cela ne veut pas dire que nous sommes dans un cycle, ou dans des cycles. J'ai dit avant, le temps pour nous est linéaire. Je crois que Ecclésiaste nous parle de l'homme. Tel qu'il est, il a été. Tel qu'il sera, il a déjà été. Il ne change pas, sa condition ne change pas, et lui-même ne peut rien changer. Depuis Adam, il cherche à découvrir ce que Dieu cache, sans succès. Mais Dieu reprend, recueille tout ce qui a été. En lui, rien n'est perdu. En lui, tout garde sens. Le temps, l'éternité, et voilà qu'Ecclésiaste porte son regard sur la justice. Sous le soleil, le lieu d'investigation possible de l'homme, c'est-à-dire le monde que nous pouvons observer, la méchanceté est infiltrée partout, jusque là où la justice devrait régner. Et dans sa réflexion, je me suis dit en moi-même, Ecclésiaste ne voit que Dieu pour établir la justice. Dans l'alternance des actions de la vie, dans le temps donné, tout n'est pas égal et il y aura à rendre compte, et notamment dans le domaine de la justice. Et puis Ecclésiaste va plus loin. Ces temps donnés, Dieu veut les éprouver. Ce sera alors manifeste, même pour l'homme, qu'il n'est qu'un animal. Car finalement, leur fin est la même, la mort. On n'est pas ici au niveau de capacité ou de compétence, on est dans le sens de la vie. La différence entre l'homme et l'animal tient dans ce don de Dieu, le sens de l'éternité, qui peut être mis en relation avec sa création à l'image de Dieu. Et si l'homme ne se comporte pas en tant qu'image de Dieu dans les actions faites en leur temps, il n'est rien de plus qu'un animal. Sa vie n'a pas plus de sens que celle d'un animal. Puis vient une question intéressante. Qui connaît le souffle ? Je vais plus vite que les diapos, excusez-moi. Qui connaît le souffle des fils d'Adam qui monte ? Le souffle, le roi en hébreu, l'esprit. Dans le domaine du savoir, de l'observable, personne ne sait où va le souffle, et de l'homme et de l'animal. Pourquoi l'un irait en haut et l'autre en bas ? Et finalement, un dernier questionnement, qui l'emmènera voir ce qui sera après lui ? L'homme ne peut observer ce qui se passe après la mort. Y a-t-il différence entre l'homme et l'animal ? Alors, dit Ecclésiaste, il n'y a rien de mieux que de jouir de ses œuvres, plutôt que de spéculer sur un après dans lequel il ne peut pas aller. L'homme ne sait rien d'un au-delà auquel il n'a pas accès. Ainsi, l'homme ne peut en rien prétendre être l'égal de Dieu. J'en arrive à ma conclusion qui sera en deux parties. D'abord, peut-être conclure sur la vision d'Ecclésiaste, puis ensuite on essaiera d'aller un peu plus loin. En fait, d'abord, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à partir de ces observations, l'Ecclésiaste pointe son doigt sur Dieu, ni sur le temps, ni sur l'éternité. Il nous parle de la révélation de Dieu et du sens que Dieu seul peut donner à notre vie. Et je résumerai ainsi la thèse de l'Ecclésiaste telle que je la comprends. La vie n'a de sens que considérée dans la perspective de Dieu. Sinon, elle est absurde. C'est la première leçon qu'on peut tirer de ce texte. Deuxièmement, ce n'est pas sous le soleil qu'il faut chercher ce qui donne sens à la vie et au travail de l'homme. Ce n'est pas dans ce que nous pouvons observer. C'est dans le champ de la révélation, donc de la foi, que se situe le sens de la vie de l'homme. Rien n'est démontrable. Et puis troisièmement, la vie nous est donnée provisoirement. Le temps s'écoule vers une fin certaine, et ce provisoire tourmente l'être humain qui a de la peine à l'accepter. Dans l'introduction, j'ai rappelé qu'Ecclésiaste, quand il fait référence à Dieu, dit « Elohim ». Ses observations et les conclusions qu'il en tire dépendent de ce point de vue. C'est la raison pour laquelle nous sommes souvent désemparés devant ce texte. Mais je crois qu'Ecclésiaste n'est pas un fataliste. Il y a de l'espérance dans sa sagesse. Au-delà de ce qui est observable, il voit Dieu, le Créateur. Il pressent qu'il y a une échappée à la finitude de l'homme, prisonnier du temps. Et il espère que Dieu fasse justice là où l'homme faillit. Alors, nous là-dedans, sommes-nous dans le tourment du provisoire ? Blaise Pascal, qui est un philosophe croyant du XVIIe siècle, a écrit dans ses pensées, en rapport avec le verset 11 d'Ecclésiaste, ceci. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Alors, nous avons la chance de pouvoir lire ce texte de l'Ecclésiaste et le comprendre avec cet éclairage de la révélation. Et du coup, le provisoire débouche sur l'espérance. On pourrait s'arrêter là. Mais je crois qu'il y a des interpellations pour nous dans ce texte. Il y a un questionnement pour nous sur le temps, et ça sera la fin de ma conclusion. Le temps est un don de Dieu. Qu'en faisons-nous? Dans l'alternance des actions, il y a des choix possibles. Qu'est-ce que je choisis? Mes actions sont-elles en accord avec le sens que Dieu donne à ma vie? Et puis le temps donné, cette alternance de choses, doit être un bon moment, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de discerner si les actions que je choisis sont dans le bon temps, dans le bon timing, on dirait aujourd'hui, ou si elles sont des fois à contre-temps. Savons-nous discerner le bon temps? Et puis les bons moments de la vie que Dieu nous donne, ceux dont nous pouvons jouir, il s'agit aussi de les choisir avec discernement. Ce dont nous jouissons, sommes-nous à l'aise pour dire que ce sont des dons de Dieu? Puis finalement, il y a des choses plus difficiles. Il y a tout ce qui nous tombe dessus. Maladie, chômage, toutes les difficultés. C'est difficile d'y voir des dons de Dieu. Mais il y a pour nous la nécessité de chercher la présence de Dieu dans ces moments où tout paraît contraire. Et je rappelle ce verset d'Ésaïe. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Et puis, il y a une invitation à pratiquer la justice. Quand on n'y réfléchit pas trop, ça semble facile. Mais quand vous regardez de plus près, ce n'est pas si facile de pratiquer la justice. Elle demande de l'humilité, elle demande de renoncer à certains de nos désirs, elle demande la prise en compte de l'autre. Elle a encore référence à Michée, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, respecter la justice, aimer la fidélité, t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Dans tous ces points, il y a comme une invitation à être des hommes et des femmes qui soient vrais hommes et vraies femmes créés à l'image de Dieu et qui le manifestent en nous rappelant que dans la mort et la résurrection de Jésus, nous recevons ce dont nous avons besoin pour vivre de cette manière. Et puis, une dernière chose, le jugement des justes et des méchants annoncé par Ecclésiaste, Paul le rappelle aux Corinthiens et par la même occasion à nous. Il faudra rendre compte de la manière dont le temps reçu a été utilisé. Je lis en Corinthiens 3. Quant au fondement, nul ne peut imposer à un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ. Que l'on bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun, les actions de chacun, l'œuvre de chacun sera mise en évidence. Le jour du jugement la fera connaître, l'œuvre, car il se manifeste par le feu, et le feu éprouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Celui dont l'œuvre subsistera recevra un salaire, celui dont l'œuvre sera consumée en sera privé, lui-même sera sauvé, mais comme on l'est à travers le feu. Nos amis français diraient que c'est le SMIG, le salut minimum. Parce qu'une vie qui va dans le sens de Dieu a des exigences, elle ne peut être vécue n'importe comment. Dans la création, elle est image de Dieu. Dans la révélation, elle est vie de disciple de Jésus. Et je n'ai pas résisté à vous laisser une pensée de Jacques Ellul. La réalité, ce que l'on observe, c'est que tout est vanité. La vérité, la révélation, c'est que tout est don de Dieu. Amen.